Aujourd'hui, à Washington.
Nous sommes le vendredi 9 août 2019 et il est 17h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Les titres. Une quarantaine de villageois tués en 3 jours de combats intercommunautaires au Tchad. Pour le président Idriss Déby Itno, c'est une préoccupation nationale. Un nouveau gouvernement en Mauritanie, des portefeuilles importants confiés à des figures de l'exécutif de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Plus de 2 millions de musulmans entament le pèlerinage à la Mecque. L'Arabie Saoudite met en garde contre toute politisation du rassemblement. Dans la partie magazine, rencontre avec le jeune Burkinabé qui fabrique des feux tricolores solaires.
Le coût exorbitant de ces feux me fait penser à la confection par nous-mêmes.
Également à venir, vos rendez-vous avec l'économie et les sports. Au Tchad, au moins 37 personnes ont été tuées en 3 jours de combats entre agriculteurs et éleveurs en début de semaine dans la région du Oudaï. C'est le président Idriss Déby Itno lui-même qui a fait état de ce bilan aujourd'hui. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le conflit intercommunautaire est devenu une préoccupation nationale. On assiste à un phénomène de mal-vivre, a déclaré le président Idriss Déby Itno lors d'une conférence de presse. Les forces de l'ordre envoyées sur place ont essuyé des tirs, a ajouté M. Déby, assurant qu'il va engager une guerre totale contre ceux qui sont à l'origine des morts d'hommes. Le président tchadien a affirmé qu'il va se rendre personnellement sur le terrain au moment venu. Selon une ONG locale, les combats ont commencé lundi à Amra, où le corps sans vie d'un jeune éleveur a été retrouvé, entraînant des affrontements entre sa communauté et des agriculteurs. Les affrontements se sont ensuite déplacés mardi dans la localité de Chakoya. L'est du Tchad, zone de transhumance, à la frontière avec le Soudan, est souvent le théâtre de conflits entre éleveurs arabes et agriculteurs autochtones qui se disputent les terres et pâturages. D'après le président Déby, l'animosité entre les deux communautés s'est déplacée depuis le début de l'année à d'autres régions.
En Mauritanie, le premier gouvernement sous le nouveau président Mohamed Ould Ghazouani vient d'être constitué. Des postes clés ont été attribués à des membres influents de l'équipe de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. De Nouakchott, le compte-rendu de notre correspondant Mohamed Diop.
Le gouvernement a été formé jeudi. Il compte 28 ministres, dont 5 reconduits de l'équipe démissionnaire suite à l'élection du nouveau président Mohamed Ould Ghazouani. Il s'agit d'Ismaël Oudoucheik Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger. Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Nani Oudouchalouga, ministre des pêches et de l'économie maritime. Nahamintou Mouknas, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Et de Sidi Ould Salem, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Parmi les arrivées les plus notoires, on compte l'ex-commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général Hanana Ould Sidi, au ministère de la Défense, et Mohamed Salem Ould Merzouk, ex-haut-commissaire de l'OMVS, organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Quant au départ qui attire l'attention de la presse, c'est celui du puissant ministre de Aziz, qui était chargé de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Diaye. Enfin, il faut noter que ce gouvernement compte moins de femmes. Elle passe de 7 dans l'ancienne équipe à 5 femmes dans le nouveau gouvernement. Mohamed Diop, Nouakchott, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, du matériel de prévention contre le virus Ebola a été volé à Kisangani. Un thermoflash, une importante quantité de chlore et des flacons de vaccins ont été emportés. Le thermoflash permet de prendre la température sans contact. Premier pas dans la détection d'une éventuelle présence de la maladie. Toutes les données sur la prévention d'Ebola sont également perdues, d'après les services de santé locaux qui affirment que ce vol affaiblit sérieusement les capacités des équipes sanitaires à Kisangani. Au Cameroun, 41 militants de l'opposition ont été condamnés à Douala à 6 mois de prison ferme pour avoir participé à des manifestations contestant le résultat de la présidentielle d'octobre dernier. C'est ce qu'ont déclaré aujourd'hui des avocats de leur parti, le MRC. Les condamnés ont protesté dans cette ville pour contester la réélection du président Paul Biya et l'arrivée à la deuxième place de Maurice Kamto, candidat du MRC. Depuis octobre de l'an dernier, de nombreux militants, dont Maurice Kamto lui-même, ont été arrêtés dans ce pays. En Tanzanie, les ambassades américaines et britanniques dénoncent ce qu'elles appellent la dégradation du système judiciaire dans ce pays. Ces critiques interviennent après la modification des charges retenues contre un journaliste d'investigation arrêté le mois dernier. Irénée Hermanoumbo pour les détails.
Les deux ambassades se disent profondément inquiètes de la dégradation des procédures judiciaires en Tanzanie, caractérisée par le recours à de longues détentions préventives et à la modification des charges. Elles citent comme exemple les irrégularités dans l'arrestation, la détention et l'inculpation du journaliste d'investigation Eric Kabendera, à qui la police a refusé l'accès à un avocat durant les premiers moments de sa détention en violation du code de procédure pénale. Monsieur Kabendera a été inculpé le 5 août de crimes économiques, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Dans un premier temps, la police tanzanienne dit l'avoir arrêté parce qu'il aurait frauduleusement acquis la nationalité tanzanienne avant de renoncer à cette accusation et de la remplacer par des accusations de publication d'informations fausses et séditieuses, des charges qui ont été abandonnées par la suite. Les deux ambassades, dans leur communiqué commun, exhortent le gouvernement tanzanien à garantir une procédure équitable à chacun de ses citoyens dans un pays signataire de plusieurs conventions de l'ONU sur les droits de l'homme.
Les Algériens manifestent pour la 25e semaine consécutive ce vendredi. Ils appellent à la désobéissance civile et rejettent le dialogue proposé par le pouvoir. Il y a eu encore une fois aujourd'hui un important déploiement policier à Alger, la capitale. Les manifestants ont également scandé des slogans contre Karim Younes, le coordonnateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation. La présidentielle prévue le 4 juillet dernier n'a pas pu être tenue faute de candidats. La marine libyenne accuse les autorités de défaillance dans leur prise en charge des migrants secourus en mer. Elle affirme qu'elle pourrait être contrainte de laisser les migrants libres une fois ramenés sur terre ferme. La marine, qui ne peut exercer son autorité en dehors des ports, est tenue de garder sous son contrôle les rescapés avant de les remettre à l'organe chargé de la lutte anti-immigration du gouvernement d'Union nationale reconnu par l'ONU. Mais les migrants attendent parfois plusieurs jours sur des quais, dormant à même le sol et sans abri, que les autorités viennent les chercher, d'après le général Ayoub Kassem, porte-parole de la marine libyenne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 2 millions de musulmans ont entamé ce vendredi le pèlerinage annuel à la Mecque, en Arabie Saoudite. Riyad a mis en garde contre toute tentative de politisation de ce rassemblement religieux sur fond de tensions persistantes dans le Golfe. Davantage avec Eki Abadou.
Quelques 2,5 millions de fidèles venus du monde entier doivent accomplir cette année le Hajj. Aussi, selon l'agence iranienne Tasnin, quelques 88 550 Iraniens font le Hajj cette année, malgré la rupture des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran. Près de 200 proches des victimes et rescapés de l'attaque en mars de deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande effectuent le pèlerinage. Selon un responsable du ministère saoudien du Hajj, Atem Ben Hassan Kadi, plus de 1,8 million de visas ont été délivrés en ligne sans passer par les consulats. Gérer les flux ininterrompus de pèlerins et garantir leur sécurité représente un énorme défi logistique pour le royaume saoudien. Des dizaines de milliers de membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter tout nouveau drame comme les bousculades dont la plus meurtrière en 2015 avait fait près de 2300 morts.
Le président américain Donald Trump a évoqué aujourd'hui un soutien extraordinaire au Congrès pour mieux encadrer les ventes d'armes à feu 6 jours après des fusillades qui ont endeuillé les États-Unis. Il s'agit notamment de renforcer les vérifications d'antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes à feu. Donald Trump a toutefois rappelé son soutien sans faille au droit des Américains à détenir des armes. La NRA, le puissant lobby pro-armes, est connue pour être hostile
le durcissement des lois. Au Congrès, la pression monte sur le leader de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, pour tenir un vote sur deux projets de loi adoptés en février dernier par la Chambre des représentants à majorité démocrate. Les forces indiennes au Cachemire ont été placées en alerte maximale ce vendredi, jour de prière musulman. New Delhi craint des manifestations de masse et des troubles en raison des tensions provoquées par sa récente décision de révoquer l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire que l'Inde contrôle. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
La cession des parts minoritaires de la société sud-africaine MTN dans Mascom Wireless Botswana pour 300 millions de dollars devrait être conclue au cours de ce semestre. MTN compte aussi lancer Music Time, son service de diffusion de musique en continu au Nigeria, l'un des plus grands marchés de la diffusion de musique en continu. La société a également lancé son application de messagerie Ayoba sur trois marchés d'Afrique de l'Ouest et l'étendra à d'autres marchés. La Banque nationale du Kenya sera prise en charge par KCB d'ici la fin du mois si son offre est acceptée par 75% des actionnaires. En avril, KCB, le plus important prêteur au Kenya en termes d'actifs, a proposé d'acheter la Banque nationale en difficulté par le biais d'un échange d'actions, soit une action de KCB pour 10 actions de NBK. Le Parlement kenyan invite le gouvernement de rejeter cette offre qui sous-estime l'institution financière. Terminons cette minute éco avec les matières premières. L'or a fini la semaine en hausse, atteignant même son plus haut niveau depuis 6 ans. Mercredi, l'once d'or valait 1 510,50 $ pour la première fois depuis début 2013.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
Le Rwanda remporte la 5e étape du Tour cycliste international du Congo.
Oui Jacques, et sans plus tarder, nous retrouvons Genovic Mboa de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, pour le point de cet acte 5.
Le Rwandais Byekusenge Patrick s'est adjugé en solitaire la 5e étape du Tour international de la RDC, longue de 108 km et comprise entre le territoire des Bachungu et Kingi dans le Bondoundou. L'homme a fini la course en 2h30, soit une vitesse moyenne estimée à 40 km par heure, préservant au passage près d'une heure d'avance sur son compatriote Ouidraye, classé deuxième, et l'Angolais Elder Jorge Vieira da Silva, venu à la troisième position. Un autre Rwandais qui s'est illustré ce vendredi au cours de ces circuits, c'est Jean-Claude Nzafachoa qui a ravi le maillot jaune. Au Camerounais Clovis Abessolo, 24 heures après sa victoire sur le Rwandais, Jean Bosco Roubérois à une étape de la fin. Quelle stratégie mettre en place pour que le Rwanda conserve le maillot jaune? Benoît Mounienkidi est directeur sportif des Amavubi.
C'est question de séparer les techniques et tactiques, et puis on gère et on contrôle tous les pelotons et on fait attention que personne ne bouge. Ce qui nous attaque, on les fait retirer.
À noter que la caravane rentre sur Kinshasa ce vendredi dans la soirée pour la dernière étape qui est prévue ce samedi et qui va se courir entre la commune de Lancélé et le boulevard Triomphal sur une distance de 108 km avec des tours en circuit fermé. De Kinshasa, Genovic Mbowambaya pour VO Afrique.
Everton s'offre le Nigérian Alex Iwobi.
Les Toffees ont engagé l'international nigérian d'Arsenal pour 5 ans. Les Gunners ont récolté près de 30 millions d'euros pour le natif de Lagos formé au club. Alex Iwobi, 23 ans, évolue à Arsenal depuis 2015. Il y a disputé 149 matchs pour 15 buts inscrits. De son côté, l'international congolais Gaël Kakuta a définitivement quitté le Rayo Vallecano en Espagne pour signer un contrat de 3 ans avec Amiens en France. Son compatriote d'Everton, Yannick Bolasie, a refusé un prêt au CSKA Moscou en raison des violences racistes dont le Brésilien Malcolm a été victime au Zénith Saint-Pétersbourg.
Et en basketball, Yacouba, l'Afro-Basket Dame débute demain à Dakar.
Oui, Jacques, cette 24e édition va se dérouler du 10 au 18 août dans la capitale sénégalaise. 4 groupes de 3 ont été constitués. Le Sénégal finaliste de la dernière édition et pays hôte est logé dans le groupe A. Il partage cette poule avec la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le Nigeria, vainqueur de l'Afrobasket 2017, est logé dans le groupe B avec la Tunisie et le Cameroun. La poule C renferme l'Angola, la RDC et le Mali. Et enfin, le Kenya, le Cap-Vert et le Mozambique composent le groupe D.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Le Cameroun demande à ses forces militaires de rester sur le qui-vive après l'annonce par la Guinée équatoriale de la construction prochaine de murs à la frontière pour empêcher les entrées illégales sur son territoire. La Guinée équatoriale fait partie de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est un bloc qui encourage la libre circulation des personnes et des biens dans la région. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka avec la voix de Lionel Gaïma.
Le commerçant camerounais Pascal Comé, 32 ans, vient de rentrer à Yaoundé, venant de la Guinée équatoriale. Il importe du vin et exporte du ciment, de la tôle ondulée et des produits agricoles. Il assure que tout au long de son voyage, les discussions n'ont porté que sur le mur. La Guinée équatoriale a indiqué qu'elle construisait un mur sur sa frontière avec le Cameroun.
Je me sens très mal parce que les marchandises ne vont pas entrer au Cameroun. Et les agriculteurs qui vendent en Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs produits? La construction de ce mur ne va pas permettre aux Camerounais de vendre leurs produits.
La Guinée équatoriale a annoncé la construction d'un mur et des bornes sur la frontière près de la ville camerounaise de Kié aussi. Aussitôt après cette annonce, le chef de l'armée camerounaise, le général René-Claude Meka, s'est rendu à la frontière. Il a déclaré avoir informé que l'État voisin ne respecte pas le tracé de la frontière et empiété sur le territoire camerounais. Il a ajouté que l'armée ne tolérerait aucune intrusion illégale. Anastasio Asumu Munoz, ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, a été convoqué jeudi par le ministre des Relations extérieures du Cameroun pour expliquer les projets de son pays.
Ce n'est pas sur la frontière, c'est dans le territoire équato-guinéen. Je peux vous assurer que l'information qui est sur les réseaux sociaux en disant que les soldats guinéens ont traversé la frontière pour aller mettre les bombes là, moi je vous assure que ce n'est pas vrai. Nos soldats ne peuvent pas traverser la frontière à 10 km pour aller mettre des bombes.
Malabo a toujours accusé le Cameroun de laisser ses citoyens et des Ouest-Africains entrer illégalement sur son territoire. Plus de 100 000 migrants du Togo, du Burkina Faso, du Nigeria et du Bénin en route pour la Guinée équatoriale et le Gabon sont actuellement bloqués au Cameroun. Ils ont été sauvés par la marine camerounaise des navires qui chaviraient dans l'océan Atlantique. Christian Bock, spécialiste en relations internationales, invité à l'université de Guinée équatoriale, a affirmé que ce mur va empêcher l'arrivée de migrants clandestins et protéger la Guinée équatoriale.
Il y a eu un problème en Guinée équatoriale à cause de la tentative de renversement du président. Le gouvernement devait agir pour se protéger et annoncer la suspension de la mise en œuvre de la décision de la CEMAC sur la libre circulation. C'est une situation complexe.
La Guinée équatoriale a souvent fermé sa frontière avec le Cameroun en se plaignant de l'insécurité causée par l'immigration clandestine. En décembre 2017, la Guinée équatoriale a annoncé avoir arrêté à la frontière 30 hommes armés originels du Tchad, de la République centrafricaine et du Soudan. Malaba affirme qu'ils étaient en possession des lance-roquettes, des fusils d'assaut et d'un stock de munitions pour déstabiliser le gouvernement du président Teodoro Obiang-Nguema, qui dirige ce pays riche en pétrole depuis 1979. De son côté, le Cameroun a annoncé avoir également arrêté 40 hommes lourdement armés sur les 290 km de frontières communes. Les deux pays sont membres de la CEMAC. Les six pays de ce bloc économique ont décidé en 2017, après une réunion des chefs d'État au Tchad, de lever l'obligation de visa pour leurs 45 millions de citoyens.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Gros plan maintenant sur cette nouvelle législation qui continue de faire polémique au Togo. La loi que le Parlement du pays a adoptée mercredi dernier restreint fortement les manifestations publiques. Le gouvernement invoque des raisons de sécurité. Quant à la société civile, elle crie à une loi liberticide dans un pays qui a récemment été secoué par une crise politique. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Il est interdit de manifester dans des zones dites à fortes activités économiques et dans les centres urbains sur toute l'étendue du territoire togolais. C'est l'une des restrictions de la nouvelle loi sur les manifestations publiques au Togo. C'est une totale révision de la loi de 2011 pour Fabi Kwasi, militante des droits humains.
En résumé clair, les Togolais sont interdits d'exprimer tout sentiment de mécontentement par le biais de manifestations publiques. Mais ça ne devrait pas étonner outre mesure parce que c'est la marque de fabrique de tout régime non démocratique d'être abonné à ces genres de dérives liberticides.
La mesure ne passe pas non plus du côté de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Maître Célestin Agbogan, président de la LTDH.
La Ligue togolaise des droits de l'homme s'indigne profondément vis-à-vis de cette modification qui constitue une entrave grave à la liberté de manifestation et qui viole les dispositions de l'article 30 de notre Constitution. Alors, lorsqu'il y a une loi qui interdit systématiquement des manifestations sur les routes nationales, devant les institutions de la République, dans les environs, des chancelleries, il n'y a même plus d'endroits où on pourrait manifester. C'est grave dans un pays qui se veut démocratique. On a l'impression que nous sommes toujours en dictature.
La sérénité a quitté le rang du pouvoir d'après le professeur David Dosset du Front citoyen Togo Debout.
Tout cela traduit selon moi un manque de sérénité parce qu'un pouvoir qui estime qu'il est légitime, qu'il a le soutien populaire, n'a pas besoin autant de restreindre les libertés. Le pouvoir donc togolais va jusqu'au bout de sa logique, restreindre les libertés au maximum et espérer ainsi baliser la route vers un succès garanti en 2020 et je crois que c'est là où peut-être ce pouvoir se trompe.
En 2020, Fogne Singbe pourrait encore empiler, ce qui peut être source de contestation. Les manifestations de dizaines de milliers de personnes en 2017 et 2018 sont encore fraîches dans les mémoires. Fabi Kwasi.
Moi, je pense que c'est par rapport à 2020. 2020 qui est une année électorale et donc une année où M. Fogne Singbe l'orne de rempiler pour un quatrième mandat, un mandat antidémocratique. C'est l'enjeu majeur. Et donc les tenants du régime sont dans l'anticipation même de la contestation populaire par rapport à ce mandat de trop.
La Ligue togolaise des droits de l'homme compte mener des actions. Maître Célestin Agbogan.
Nous allons saisir les organisations internationales qui luttent pour la défense des droits de l'homme pour que leurs autorités reviennent sur leurs décisions. Parce que lorsqu'il y a un pouvoir qui ne veut pas confier la liberté à ces populations, la population lutte pour arracher cette liberté-là. Et donc, lorsque nous allons mener les actions diplomatiques, si ça ne prospère pas, nous allons mener des actions populaires. Parce que on ne veut pas interdire à un peuple de revendiquer ses droits. On ne veut pas interdire à un peuple d'acquérir sa liberté. Donc, le peuple va arracher sa liberté.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Les préparatifs vont bon train à l'approche de la Tabaski ou l'Aïd al-Adha ou encore l'Aïd el-Kébir. Cette fête, l'une des plus importantes du calendrier musulman, sera célébrée à partir de ce week-end. Au Sénégal, comme dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, la vie est rythmée depuis plusieurs jours par la Tabaski. L'achat du mouton continue d'être un casse-tête et les habits coûtent de plus en plus cher. Les vendeurs de moutons, eux, se plaignent des conditions difficiles de commerce. L'ambiance à Dakar, avec notre correspondant Seydina Bagay.
La capitale sénégalaise vit au rythme de la fête de l'Aïd el-Kabir, communément appelée Tabaski. Les rues sont remplies par les tentes qui servent d'enclos aux éleveurs de moutons. D'ailleurs, plusieurs de ces derniers sont des jeunes qui ont abandonné les études pour se lancer dans la vente de billets. Iran John, vendeur de moutons, estime que c'est une activité compliquée.
Il nous faut un budget pour se lancer dans ces opérations parce qu'il y a beaucoup de dépenses, l'eau, le foin. En plus, il fait extrêmement chaud ici. Ce n'est pas simple pour nous.
Malgré les difficultés, certains lâchent leur activité traditionnelle pour se consacrer au business des moutons le temps de la fête de l'Aïd. Moussa Ley est un pêcheur, mais depuis 15 ans, il se consacre également à la vente de billets pour faire des économies. Il juge cependant que cette vente de moutons est devenue un business pour riches.
Ce milieu n'a pas d'avenir parce que beaucoup de gens s'intéressent à ce business maintenant. Et souvent, les gens le font seulement pour l'argent. Et souvent, les gens ont beaucoup plus de moyens que nous. Ils font ces opérations seulement pour l'argent, contrairement à nous, ce qui pose problème, raison pour laquelle les gens ont décidé de quitter le milieu.
Les difficultés des éleveurs se ressentent sur les prix des moutons, ce qui complique la tâche des chefs de famille. Moussa Tall estime que les personnes avec une situation financière aisée doivent assister les démunis.
Il est difficile d'être solidaire et comme la Tebaski est une opportunité de faire des actes de solidarité, c'est le moment de le faire. Si on a les moyens de le faire, on doit vraiment être solidaire. Si j'ai les moyens, je le fais. Et malheureusement, je n'ai pas les moyens. Et aussi, j'essaie toujours de chercher ceux qui ont les moyens pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Ces gens qui ferment leur téléphone au moment de la Tebaski, je les considère comme des gens qui n'ont pas bien compris l'aspect social. Parce qu'il faut être social dans la vie.
L'Eid, également appelée Tebaski, est l'une des plus grandes fêtes religieuses au Sénégal. C'est également un moment délicat pour les pères de famille aux moyens limités, surtout que cette année, le prix des moutons est assez élevé à cause des difficultés rencontrées par les éleveurs. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
C'est une innovation qui va avoir un impact sur le trafic routier au Burkina Faso. Youssouf Barra, un enseignant en électronique à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, a inventé des feux tricolores qui fonctionnent à l'aide du soleil. Le pays est confronté à un manque aigu de feux de circulation routière à cause de leurs coûts exorbitants. Notre correspondant Ouagadougou s'est déplacé à Bobo-Dioulasso pour rencontrer l'inventeur. Made in Burkina, c'est un reportage de Lamine Traoré.
Nous sommes à Bobo-Dioulasso, secteur 24, dans sa maison d'habitation, se trouve en même temps son atelier. En expérimentation, quatre mâts sont dressés dans la cour. Youssouf Barra, 30 ans, enseignant en électronique, a pu, après plusieurs mois de travail, inventer un système de feux tricolores qui marche avec le soleil.
Tout est parti du constat du fait que les feux tricolores au Burkina sont tous importés.
Youssouf Barra, inventeur.
Le coût exorbitant de ces feux m'a fait penser à la confection par nous-mêmes. C'est ce qui m'a motivé à faire ces feux tricolores. Et les feux tricolores, le moins cher au Burkina fait environ 20 millions de francs CFA. Et ce qui nous fait mal est que lorsqu'il n'y a plus de courant, lorsqu'il y a de l'estage, ces feux passent au noir.
La prouesse de l'inventeur, c'est d'avoir pu concevoir l'élément capital dans le système de feux tricolores, le contrôleur.
Le plus difficile, c'est le contrôleur, ce qui arrive à gérer la tenance des couleurs. C'est ce qui est le feu tricolore. La programmation électronique n'est pas donnée à tout le monde.
Et c'est avec son ordinateur de fortune qu'il fait la programmation, l'alternance des couleurs, comme il l'explique ici.
Le premier et le troisième actuellement qui sont au vert, tandis que les deux sont au rouge. Voilà, donc peu de temps, ça passe au jaune, vous les voyez vous-même. La programmation a été faite pour le vert autour de 12 secondes, le jaune autour de 3 secondes, et tous les rouges ensemble durent environ 3 à 4 secondes simultanément.
Youssouf Barra est un motif de satisfaction pour son entourage. Karim Traoré, étudiant proche de l'inventeur.
Il n'y a pas assez de feux. Si bon, lui il a l'initiative de créer, je pense qu'on aura assez de feux. Si bien si on le contacte. En tant qu'étudiant, j'en suis fier. Et si tout est chacun, nous pouvons créer ici au Burkina Faso, ça allait être vraiment un plus pour le Faso.
Kassim Ouedraogo, un admirateur du jeune inventeur.
Le gouvernement ne doit même pas lésiner sur les moyens pour l'aider, pour l'accompagner, pour qu'il puisse inonder nos rues avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Dans la mesure où on a beaucoup de soleil ici, et c'est un truc solaire, c'est magnifique.
Youssouf Barra demande aux autorités de faire confiance à l'expertise locale.
Avant de songer à l'extérieur, il faut d'abord penser aux compétences locales.
Les jeunes inventeurs.
Quand je pense à feux tricolores, ça reviendra quasiment deux à trois fois moins cher que les feux importés. Et non seulement du fait que ça a été fait ici, en cas de panne, la maintenance sera locale, donc ça sera vite fait.
Youssouf Barra ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut non seulement se faire former davantage, mais aussi envisage poursuivre ses travaux de recherche. Mais cela si toutefois il a le soutien des autorités et autres bonnes volontés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et voilà, point final à ce monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. À la console, on avait l'aide de notre ami Nelson Herbert Lopez. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. À très bientôt.
VOA Afrique, les infos.